France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. À 10 mois de la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire, un mandat d'arrêt international a été émis contre l'ex-chef de la rébellion et candidat à la magistrature suprême Guillaume Soro, lequel devait rentrer hier dans son pays.
Dans votre journal également, pour tenter de sortir son pays de la crise, le gouvernement argentin a promulgué une loi instaurant une série de mesures économiques et fiscales d'urgence.
Et bien loin des traditionnels plans d'austérité, celle-ci prévoit au contraire des prestations sociales pour les plus défavorisés, l'octroi de primes pour les petites retraites et le report, voire le gel des augmentation des tarifs des services publics pour les plus pauvres.
Le nombre d'arrêts maladie chez les conducteurs de la RATP aurait augmenté entre 200 et plus de 300% entre la première quinzaine de décembre et celle de 2018.
Oui, l'information révélée ce matin par nos confrères du Parisien a aussitôt suscité des interrogations quant à la nature même de ces arrêts en plein conflit social. Enfin, une fois les réacteurs démolis et le site nettoyé, comment faire place nette à Fukushima? Ce matin, les autorités japonaises ont expliqué que le rejet dans l'environnement de l'eau contaminée de la centrale nucléaire était l'unique option restante. Invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Roland Desbordes, physicien et membre fondateur de la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Primitivisme, retour sur un courant, un mouvement avec un autre regard, celui de notre invité, l'historien d'art Philippe Dagen.
Merci et à tout à l'heure. Après 6 mois d'absence à l'étranger, le retour au pays de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, pour lancer sa campagne en vue de la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire, était attendu avec une impatience non dissimulée hier par tous ses partisans qui l'attendaient à Abidjan. Une impatience que ne partageaient visiblement pas les autorités qui, pour l'occasion, avaient choisi de déployer en grand nombre des forces de l'ordre anti-émeute afin d'empêcher tout regroupement de sympathisants le long du trajet menant de l'aéroport de la capitale au domicile de l'ex-chef de la rébellion. Et c'est ainsi que, craignant d'être arrêté, ou à tout le moins que les conditions sécuritaires suffisantes ne soient plus réunies, Guillaume Soro a finalement préféré dérouter son jet privé pour atterrir chez le voisin ghanéen. Un pressentiment qui s'est d'ailleurs vérifié quelques heures plus tard à peine, puisque la justice de son pays a émis contre lui un mandat d'arrêt international pour atteinte à la sécurité de l'État, détournement de deniers publics et blanchiment d'argent. Bertrand Galichet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors vous revenez, Bertrand, d'Abidjan. Et pour bien comprendre la situation, peut-être convient-il tout d'abord de rappeler que Guillaume Soro a longtemps été le meilleur allié de l'actuel président Alassane Ouattara, qu'il a même fortement contribué à porter au pouvoir, avant que ses relations avec le chef de l'État, lequel voulait brider ses ambitions politiques, ne finissent par se dégrader jusqu'à la rupture. Et c'est dans ces conditions qu'on peut assez facilement imaginer, Bertrand, qu'à 10 mois de la prochaine présidentielle, eh bien c'est justement parce que Guillaume Soro est aujourd'hui pressenti comme un candidat sérieux à la magistrature que la justice ivoirienne a décidé hier d'émettre donc ce mandat d'arrêt international.
Oui, une première crispation politique à l'approche de la présidentielle du 31 octobre 2020. La presse ivoirienne, ces derniers jours, laissait entendre que Alassane Ouattara allait réagir face au retour annoncé de Guillaume Soro, un concurrent politique sérieux. L'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne devait en effet rentrer avant-hier à Abidjan après 6 mois d'une tournée à l'étranger, notamment dans des pays africains, une opération destinée à lui procurer une stature internationale. Dans un premier temps, ce retour a été décalé à hier pour ne pas télescoper la visite officielle en Côte d'Ivoire d'Emmanuel Macron. Avant d'être finalement reporté in extremis, Guillaume Soro craignant à juste titre d'être arrêté à la descente de son jet privé. Il s'est donc réfugié au Ghana, pays frontalier à l'est du territoire ivoirien. Le mandat d'arrêt international émis à la demande de la Côte d'Ivoire est peu explicite. Guillaume Soro, accusé de tentative d'atteinte à l'autorité de l'État, est aussi visé par une information judiciaire pour détournement de deniers publics et blanchiment portant sur plus de 2 millions d'euros. Simultanément, le pouvoir ivoirien s'en prend aux partisans de Guillaume Soro. Une quinzaine d'entre eux ont été arrêtés par la police et la gendarmerie au siège du parti Génération et Peuple Solidaire dans le quartier résidentiel de Cocody. Des hommes en treillis ont forcé les portes de la villa. Parmi les personnes interpellées, le député Alain Le Bognon, proche de Guillaume Soro. Jusqu'à présent, l'ancien président de Côte d'Ivoire, l'actuel président de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, âgé de 77 ans, disait pourtant qu'une nouvelle génération devait assumer le pouvoir, tout en n'excluant pas de se présenter pour un troisième mandat si ses rivaux historiques étaient eux-mêmes candidats, à savoir les ex-présidents Henri Konan Bédié, 85 ans, et Laurent Gbagbo, 74 ans.
Merci Bertrand Galichet. Torture, traitement cruel ou dégradant, toutes les expertises publiées ces dernières semaines par plusieurs ONG insistaient déjà sur de graves violations de droits humains, de sorte que l'on ne sera pas surpris de lire dans le dernier rapport de l'Institut National des Droits Humains combien les manifestations qui ont récemment secoué le Chili ont conduit à la répétition de comportements tels que le recours aveugle à la force, qu'il s'agisse de l'utilisation d'armes à feu ou le déshabillage dans les unités de police. Dans le détail, l'Institut National des Droits Humains déclare avoir déposé près d'un demi-millier de plaintes visant des agents de l'État, policiers ou membres des forces armées. Une violence qui, toujours selon l'organisme indépendant, s'expliquerait par l'autonomie indue dont jouirait la police depuis le retour de la démocratie au Chili. Rappelons que le mouvement de protestation démarrait le 18 octobre dernier, a fait 26 morts. Le président brésilien Jair Bolsonaro a été admis dans un hôpital militaire hier soir après avoir subi une chute a priori sans gravité. En l'occurrence, le dirigeant d'extrême droite se serait cogné la tête en glissant dans la baignoire de son palais. Un accident domestique qui intervient alors même que l'enquête, un temps suspendu sur des soupçons de détournement de fonds publics de la part du sénateur et fils aîné du président, s'est accélérée ces derniers jours. Le parquet de Rio a en effet ordonné une vingtaine de perquisitions, notamment chez des proches de la famille Bolsonaro. Au moment de sa prise de fonction, c'était le 10 décembre dernier, le nouveau président argentin, un péroniste de centre-gauche, Alberto Fernandez, avait déclaré avoir hérité d'une situation dramatique. Et de fait, la troisième économie d'Amérique latine est aujourd'hui frappée non seulement par l'explosion de la pauvreté et de l'inflation, mais aussi la récession, une crise quasi similaire à celle de 2001, lorsque le pays, incapable de faire face aux échéances de remboursement de sa dette, avait connu le plus important défaut de paiement de l'histoire. Et c'est ainsi qu'hier, pour tenter donc de remettre sur les rails l'économie de son pays, le gouvernement a promulgué une loi instaurant une série de mesures d'urgence à la fois économiques et fiscale. Marie Vienneau, bonjour.
Bonjour.
Qu'y a-t-il, Marie, dans cette loi d'urgence économique ?
Alors, la loi promulguée hier cherche à répondre aux urgences économiques, sociales et financières en Argentine. Le pays est en récession depuis 2 ans. Son produit intérieur brut a baissé de 2,5% en 2018 et 3,1% en 2019. Pour relancer l'économie, le nouveau gouvernement choisit donc de soutenir la consommation et les petites et moyennes entreprises pour qui les impôts vont baisser grâce à cette loi. Cette loi d'urgence va aussi augmenter le coût des licenciements. Là, c'est pour répondre à l'urgence sociale. 40% des 44 millions d'Argentins sont pauvres. Leur nombre a grandi sous l'effet des mesures d'austérité décidées par le président précédent et aussi sous l'effet de l'inflation des prix, 50% chaque année depuis 2 ans. La loi prévoit donc un plan contre la faim, des primes pour les plus petites retraites, ainsi que le gel de l'augmentation des tarifs de certains services publics. Tout cela va coûter. Or, le nouveau président Alberto Fernandez doit rassurer les marchés financiers sur sa capacité à faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État argentin. C'est la condition pour que le défaut qu'il a prononcé reste virtuel et non réel. D'où des augmentations d'impôts sur la richesse, une hausse des taxes sur les exportations de denrées agricoles et une taxe de 30% sur les achats faits en devises étrangères. Il faut savoir qu'en Argentine, on peut payer partout en pesos, mais aussi en dollars ou en euros. Les Argentins épargnent en dollars pour se prémunir de l'inflation. Le dollar protège, mais il accentue les difficultés financières du pays, car la dette argentine est libellée en dollars. Le pays ne maîtrise donc pas du tout ce que lui coûtent ses remboursements. Cela dépend de la parité entre le peso et le dollar. C'est le problème de fond de l'économie argentine. C'est un problème ancien que cette loi ne va bien sûr pas modifier.
Merci Marie Vienneau. Après la série de déclarations aussi véhémentes que rituelles de la Corée du Nord, mais plus encore à quelques jours seulement de la fin de l'ultimatum adressé par Pyongyang à Washington sur le nucléaire, la Chine organise depuis ce matin et jusqu'à demain un sommet avec ses deux voisins, le Japon et la Corée du Sud, dans l'espoir de promouvoir une paix durable dans la péninsule. Sauf que l'objectif de cette réunion ne vise pas uniquement à éteindre la menace brandie par le régime autocratique de Kim Jong-un d'envoyer un cadeau de Noël aux États-Unis sous forme par exemple de missiles. En réalité, tous les acteurs parties prenantes dans ce dossier ont à y gagner. Louise Baudet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Commençons peut-être par cette rencontre donc, qui a eu lieu ce matin entre le Premier ministre japonais et le président sud-coréen et qui constitue déjà en soi, Louise, une première victoire.
Effectivement, la poignée de main échangée ce matin entre le japonais Shinzo Abe et le sud-coréen Moon Jae-in est une première depuis 15 mois. Il faut dire qu'entre Tokyo et Séoul, le contentieux est historique. Héritage de l'époque où la péninsule coréenne était une colonie du Japon impérial. 35 ans de de domination nippone entre 1910 et 1945. Un passé qui ne passe pas en dépit du traité de normalisation signé en 1965. L'an dernier, la justice sud-coréenne a réclamé à des entreprises japonaises le dédommagement de Sud-Coréens forcés de travailler dans leurs usines pendant l'occupation. Résultat, des sanctions commerciales réciproques, des condamnations politiques et une dimension militaire latente, car le conflit est aussi territorial. Le Japon revendique en effet la souveraineté des îles d'Okdo, contrôlées par la Corée du Sud.
Et ce début de réchauffement, donc malgré tout, entre Séoul et Tokyo, eh bien, devrait notamment rassurer Washington, inquiet jusque-là des dissensions entre ses deux principaux alliés.
Oui, les États-Unis ont besoin que leurs alliés régionaux offrent un front uni face à la Corée du Nord, tout d'abord, qui, vous l'avez dit, multiplie les déclarations et les gestes inquiétants depuis l'échec du sommet de Hanoï en février dernier entre l'Américain Donald Trump et le Nord-Coréen Kim Jong-un. Et puis, c'est aussi à la Chine que pense Washington, le grand rival commercial et géopolitique, nouvelle superpuissance qui exerce son influence à Taïwan, Hong Kong et en mer de Chine méridionale. Ça n'est donc pas le moindre des paradoxes que de voir les rivaux chinois et américains espérer tous deux le succès de ce sommet tripartite de Chengdu. Car Pékin, puissance invitante, entend y démontrer toutes ses capacités diplomatiques en aplanissant les difficultés entre Japon et Corée. Un succès lui permettrait par ailleurs de détourner l'attention de ses problèmes intérieurs, en particulier les manifestations pro-démocratie qui agitent Hong Kong depuis l'été.
Merci Louise Baudet. À l'issue d'une semaine désastreuse pour Boeing, marquée par l'échec d'une mission pour la NASA, mais surtout l'annonce de la suspension à partir du mois de janvier de la production de son appareil vedette 737 Max, le conseil d'administration du groupe a estimé qu'un changement à la direction était nécessaire pour regagner la confiance. Et c'est ainsi qu'hier, la pire crise de l'histoire de l'avionneur américain a conduit son patron Dennis Muilenburg directement vers la sortie. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Alors après des mois de vives critiques sur sa gestion de la crise, on se souvient notamment de ses efforts, disons, maladroits pour présenter des excuses sincères et publiques. Sans doute, cette démission était-elle devenue inévitable? Sera-t-elle pour autant suffisante pour restaurer la confiance? Seule certitude, le défi est aujourd'hui immense, d'autant, Hakim, qu'il ne concerne pas seulement donc le géant américain de l'aérospatiale, mais aussi tous ses équipementiers et en particulier français.
Oui, de la centaine de fournisseurs français de Boeing, Safran est le plus exposé, puisqu'avec son partenaire américain, General Electric, ils sont fournisseurs exclusifs des moteurs du 737 MAX. Si l'équipementier français, qui perd déjà 300 millions d'euros par trimestre depuis le début de la crise, pouvait limiter la casse ces derniers mois, c'est parce que Boeing continuait la production malgré les interdictions de vol, à raison de 42 avions par mois depuis le début de la crise. L'avionneur américain pensait que les autorisations pour la reprise des vols ne seraient pas aussi longues, mais voilà, avec le gel de la production à partir de janvier, annoncé la semaine dernière, la situation se complique vraiment pour Safran, qui va pratiquement plus recevoir de cash de la part de Boeing pour la livraison de ses moteurs, mais aussi des compagnies aériennes clientes du 737 MAX. Son directeur général, Philippe Petit-Colin, n'envisage pas pour autant l'arrêt total de la production des moteurs. Il entend la maintenir à un niveau décent, dit-il. Safran qui ne fournit pas, Thomas, que des moteurs, mais aussi des roues, des freins et du câblage électrique. Va donc devoir limiter fortement la production de ces pièces, mais n'envisage pas pour l'instant du chômage partiel, comme nous l'indiquait ce matin l'un de ses porte-paroles. Ce qui aura aussi des conséquences pour d'autres entreprises françaises, cette crise du 737 MAX, notamment pour Lizzy ou encore Figeac Aero, des entreprises en première ligne pour le 737 MAX. Quant à savoir si la filière aéronautique française apportera des aides financières, notamment pour les TPE et les PME plus fragiles, pour l'instant, le GIFAS, qui regroupe les entreprises du secteur, ne s'est pas encore prononcé.
Merci Hakim Kasmi. Pas de miracle de Noël concernant la situation des transports en France pour ce 20e jour de grève. Aujourd'hui, comme prévu, 40% des TGV et des TER sont en circulation et 20% des intercités, des transiliens. En Ile-de-France, plusieurs lignes fermeront de manière anticipée en fin de journée et ne rouvriront que demain en début d'après-midi. Puis c'est aujourd'hui que la SNCF doit communiquer la circulation des TGV et Ouigo pendant le week-end du 28-29 pour le chassé-croisé des vacances de Noël. S'agissant cette fois-ci des usagers du métro parisien, pas de changement non plus dans ce qui est devenu une routine en ce mois de décembre, avec 6 lignes de métro toujours totalement fermées côté RER. Le rythme est le même que hier. Enfin, 2 bus sur 3 sont actuellement en circulation dans la capitale. Et puis, c'est dans ce contexte, donc au 20e jour de grève et à quelques heures du réveillon, que l'on a appris ce matin par nos confrères du Parisien que nombre d'arrêts maladie chez les conducteurs de la RATP avaient augmenté entre 200 et plus de 300% entre la première quinzaine de décembre et celle de l'an dernier. Des chiffres confirmé par la direction, mais que celle-ci n'a pas souhaité commenter. Alors, comme attendu, derrière cette hausse importante du nombre d'agents malades, le quotidien se demande s'il ne se cacherait pas là, en somme, un moyen pour les grévistes de ne pas perdre de l'argent et ainsi tenir plus longtemps le conflit social. À ces suspicions, je vous propose d'écouter la réponse d'Olivier Thériault, délégué CGT Bus.
Choqué, non, pas surpris. En tout cas, c'est aussi gros que le nez au plein milieu de la figure. Une stratégie qui permet d'essayer de décrédibiliser le mouvement actuel. Une des attaques parmi tant d'autres dont on a eu le droit depuis un petit bout de temps. Voilà. Après, la réalité, c'est qu'évidemment, la grève, elle est dure. La pression sociale, l'agressivité de notre direction et du gouvernement sur les grévistes est très forte. Voilà. Et donc aussi, ce que voient les agents quand ils voient que leurs collègues se font taper dessus parce qu'ils défendent leurs droits, bah, ça laisse des traces également. Il y a du monde, c'est déjà en temps normal, le métier il est très dur parce que c'est pas qu'en temps de grève que nos transports sont saturés. Donc évidemment, là, ça vient rajouter de la fatigue et puis ça joue sur le moral, ça joue sur le physique et évidemment, ça multiplie les risques de se retrouver malade. Hein. Non, ça surprend pas. C'est d'ailleurs quelque chose qui doit être vérifiable dans les grands mouvements qu'on a connus avant où la maladie progresse en fonction de la dureté de la grève. Hein.
Voilà, Olivier Thériault, délégué CGT Bus, joint au téléphone par Hakim Kasmi. Alors, tandis que la mobilisation contre le projet de réforme se poursuit, j'ajoute que les partenaires sociaux, eux, seront reçus le 7 janvier prochain par plusieurs membres du gouvernement, en particulier sur les questions de pénibilité, mais aussi sur la gestion des fins de carrière. Quand le Japon envisage de rejeter l'eau contaminée de la centrale nucléaire de Fukushima dans l'environnement ce matin, les autorités ont expliqué que la dilution en mer ou l'évaporation dans l'air, voire une combinaison des deux, était l'unique option restante après que les experts eurent exclu un stockage de longue durée. Les précisions à Tokyo de notre correspondant Frédéric Charles.
Plus d'un million de tonnes d'eau contaminée sont stockées dans un millier de citernes sur le site de la centrale de Fukushima. Cette eau sert à refroidir les réacteurs. Elle provient aussi des eaux souterraines qui s'infiltrent dans les parties basses des bâtiments des réacteurs et se chargent de radionucléides au contact des combustibles fondus. Le gouvernement japonais dit aujourd'hui qu'un stockage durable de cette eau, comme le recommande Greenpeace, n'est plus possible. En 2022, toutes les citernes seront pleines. Restent trois options, la dilution en mer, l'évaporation dans l'air ou une combinaison des deux. L'eau est traitée avec des systèmes de dépollution qui permettent d'en extraire les radionucléides, à l'exception du tritium. Depuis 5 ans, l'Agence internationale de l'énergie atomique pousse pour la dilution en mer. Mais l'opérateur de la centrale, TEPCO, reconnaît qu'une partie de cette eau reste chargée en éléments radionucléides dangereux pour la chaîne alimentaire. Une décision finale n'interviendra pas avant les Jeux Olympiques de Tokyo de 2020. L'opposition des pêcheurs de Fukushima et de la Corée du Sud reste forte, mais à terme, l'eau de la centrale sera rejetée dans l'environnement.
Voilà, et pour continuer donc d'évoquer cette situation ubuesque, invité de la rédaction aujourd'hui, Roland Desbordes, physicien et membre fondateur. C'était en 1986, date de l'accident d'une certaine centrale à Tchernobyl, de la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Véronique Robérod. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Alors pour être tout à fait honnête, l'option consistant donc à rejeter l'eau contaminée de la centrale dans l'environnement n'est pas franchement une surprise, mais évidemment toute la question est désormais de savoir si le niveau de radioactivité de ce million de mètres cubes d'eau filtré à plusieurs reprises sera bien débarrassé à terme des radionucléides. Peut-on en être sûr ?
Alors non, absolument pas. On enlève une partie de la radioactivité par décantation, par filtration, par résine échangeuse, enfin différentes petites techniques, mais on ne peut pas enlever tous les radioéléments, et en particulier le tritium, lui, absolument, va rester intégralement dedans. Il a une demi-vie de 12,3 ans, c'est-à-dire qu'il ne diminue de moitié que au bout de 12 ans. Donc on sait que c'est pour des décennies que cette eau sera radioactive. Et en la dispersant, en la diluant dans l'environnement, c'est pour moi la solution la plus scandaleuse. Certes, économiquement et techniquement, c'est le plus simple, mais du point de vue de la protection de l'environnement et de la santé de la planète, c'est pas du tout la bonne solution.
On y reviendra, Roland Desbordes, mais ces dernières années, depuis 2011 et l'accident de Fukushima, plusieurs incidents, on va dire, ont montré que l'eau stockée et demain donc rejetée dans l'océan était quand même extrêmement chargée en radioactivité et dangereuse pour l'homme, pour ceux qui travaillent travaille en tout cas sur le site de Fukushima.
Oui, sur ces entreposages, puisqu'on ne peut pas parler de stockage qui aura un caractère définitif. Or, des cuves montées à la hâte comme ça, de 1000 mètres cubes chacune, ça présente des... Il y a eu plusieurs incidents d'ailleurs de fuite sur ces cuves, mais moi j'ai pas de solution. En tout cas, de toute façon déjà, il y a des rejets dans l'environnement, dans l'océan Pacifique, non contrôlés ceux-là. Et puis il y a ces cuves qui se remplissent. Moi j'ai pas de technique, j'ai pas de solution simple. La solution ce serait de les entretenir, d'attendre, peut-être qu'on trouvera des solutions d'ici là, mais en tout cas pour moi c'est choquant de décider froidement de les rejeter dans notre environnement. On sait que ce sont des produits cancérigènes, mutagènes, ce n'est pas banal, ce sont des déchets radioactifs. On a abandonné la pratique de les mettre en mer, de les immerger, ces déchets radioactifs, il y a maintenant 40 ans. Pour moi, ce serait extrêmement rétrograde de repartir dans cette philosophie-là.
Roland Desbordes, ce matin, Thierry Charles, le directeur adjoint de l'IRSN, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, dit que l'eau rejetée, débarrassée, on l'a entendu, d'une grande quantité de radionucléides, sauf le tritium, eh bien, c'est techniquement très satisfaisant parce que finalement, c'est le même type de rejet que lorsque la centrale, dit-il, de la centrale de Fukushima était en fonctionnement. Et puis, il suffit de définir finalement les conditions de rejet en termes de débit, durée, de concentration. C'est une vision optimiste, mensongère, peut-être. C'est parfois le cas de la bouche des établissements publics experts du nucléaire en France. On l'a vu au moment de Tchernobyl.
Oui, pour moi, c'est une solution technique, ok, mais qui n'est pas du tout satisfaisante sur le plan des principes de la légitimité de ce genre de choses. Rejeter dans l'environnement, oui, des centrales nucléaires, les nôtres, rejettent dans l'environnement. Pour moi, je trouve que c'est légal, mais ce n'est pas légitime. Là, on est sur une installation qui ne produit pas d'électricité et on voudrait en plus lui appliquer les mêmes principes que l'on applique à des centrales qui, elles, au moins produisent de l'électricité. Donc, gérer un déchet radioactif, quel qu'il soit, déchet ou radioactif ou pas radioactif d'ailleurs, par la dilution, la dispersion dans l'environnement, c'est une pratique qui aujourd'hui est complètement condamnable. On reconnaît que ce n'est pas la bonne solution.
Et comment cette radioactivité va justement se diluer dans l'océan Pacifique? D'abord, va-t-elle se diluer? Et comment va-t-elle impacter les espèces marines?
Ça, on ne sait pas. C'est de la radioécologie, c'est-à-dire c'est l'étude de la radioactivité dans l'environnement. C'est une science qui est relativement récente. Et on sait que dans un premier temps, ça se disperse, ça se dilue. Et en gros, on a l'impression que ça disparaît. Mais évidemment, c'est faux. Ça ne disparaît pas. On sait que l'environnement, c'est complexe, que ça va voyager, ça va se déplacer, ça va se reconcentrer dans certains compartiments de l'environnement. Et demain, on retrouvera cette radioactivité peut-être à des milliers de kilomètres de là, concentrée dans certaines espèces marines et qu'on ne pourra plus consommer.
Roland Desbordes, est-ce qu'il y a une crainte qu'on soit en train de rendre en fait ces rejets socialement acceptables, en minimisant un peu les impacts de ces rejets, diplomatiquement acceptables aussi, puisqu'on ne prendra aucune décision définitive avant les Jeux Olympiques de Tokyo, l'an prochain, donc en 2020. Est-ce que c'est une posture assez classique, j'allais dire, lorsqu'il s'agit de nucléaire, ou que ce soit dans le monde?
Oui, hélas, tout le monde sait que les Jeux Olympiques, le Japon les voulait, et c'était en fait, en gros, pour essayer de tourner la page Fukushima de ce cauchemar qu'il faut reconnaître qu'ont vécu les Japonais. Évidemment, c'est politique aussi. Il y a toute une stratégie là derrière de communication, mais dès le départ, je pense que les techniciens, eux, avaient déjà dans l'idée que cette radioactivité, de toute façon, elle se terminerait dans la mer. Hélas.
C'était la solution de départ.
Merci Roland Desbordes, physicien, je le rappelle, et membre fondateur donc de la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Véronique Robert-Roth. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, sec et lumineux sur les régions méditerranéennes. En revanche, un temps faiblement pluvieux s'attardera, lui, sur les plaines du sud-ouest, le massif central, le Jura et les Alpes. Au nord de la Seine, là, les nuages resteront nombreux avec des averses localement orageuses sur les Hauts-de-France. Enfin, partout ailleurs, le ciel alternera passages nuageux et belles éclaircies. Quant aux températures, elles afficheront entre 11 et 18 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Julien Loquet et à 18h, vous avez rendez-vous avec Thomas Larabie pour le prochain journal de la rédaction.